Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est Dédé Chutes, le lutin de Noël. Comme chaque année, vous avez économisé vos 11 mois de salaire pour tout dépenser le dernier mois de l'année. C'est la tradition capitaliste qui veut ça. Et comme chez ProxyJeux, on est sympa, on va vous aider à tout dépenser. Toute la team vous a concocté une sélection de jeux pour vous et vos amis. Et je vous rappelle que si après toutes ces fêtes de fin d'année, vous vous sentez toujours d'humeur généreuse et qu'il vous reste un peu d'argent, un petit soutien à ProxyJeux sur Tipeee ou autre, le moindre euro est utile pour nous. Merci et joyeuse fête.
Bonjour les mamans joueuses et bonjour les papas joueurs. Je suis Cyrus et si j'emprunte cette introduction à Paul Gara, c'est parce qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette chronique spéciale Noël, je vais vous parler d'un jeu pour enfants. Ce jeu, il s'agit de ma première aventure, Enquête du Dragon. Les plus connaisseurs parmi vous de ce qui se fait pour enfants auront peut-être déjà hurlé au scandale. En effet, Enquête du Dragon, je l'appellerai comme ça, n'est pas tout à fait un jeu comme les autres. Il s'agit plutôt d'une forme de livre dont vous êtes le héros pour les enfants. Mais après tout, où se trouve la limite ? Enquête du Dragon est donc un livre qui est édité par Gameflow, qui a été réalisé par Roméo Aignon et qui a été illustré par Arnaud Boutel. Car en effet, qui dit livre pour enfants, dit illustration. Enquête du Dragon est un livre qui est annoncé à partir de 4 ans. À 4 ans, évidemment, votre enfant ne va pas lire le livre, il va falloir l'accompagner. Et c'est là l'un des grands intérêts de ce livre. Celui-ci va en effet vous inviter à partager un instant de lecture avec votre enfant, un instant d'aventure. Vous le savez sans doute, le livre dont vous êtes le héros emprunte beaucoup au canon du jeu de rôle. Je voudrais donc dire que vous allez vous retrouver avec ce livre quasiment devant une initiation au jeu de rôle. En tout cas, on va y retrouver certains aspects, certains éléments conventionnels, dirons-nous. Pour commencer, votre enfant va devoir choisir un des trois héros de l'histoire. Dans Enquête du Dragon, il va pouvoir incarner Lina la bagarreuse, Sacha le chapardeur ou Timon le magicien. Une barbare, un voleur, un magot, ça ne vous dit rien ? L'aventure débute dans un village paisible où votre héros s'est mis en tête d'adopter un dragon. Et pour réussir cela, évidemment, il va être confronté à des épreuves. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire au-delà de ça, je vais vous expliquer plutôt le principe. Vous aurez donc compris qu'on est face à un livre qui s'apparente au livre dont vous êtes le héros. Une fois le héros choisi, vous allez partir à l'aventure et dès les premiers instants, le livre va vous proposer des choix. Alors techniquement, je dirais on ne se retrouve pas face à un livre dont vous êtes le héros classique. Il n'est pas question ici de numéros de paragraphes qui vous envoient vers d'autres numéros. Donc le principe est finalement plus simple. Vous commencez l'histoire au début du livre, jusque là ça paraît assez logique. Et le livre va vous proposer des choix, il va vous poser une question. Et à cette question, il existe trois choix possibles. Ces choix sont matérialisés dans le livre par des volets. En fait, la page va être découpée en trois horizontalement. Vous allez donc avoir trois volets. Et chacun de ces volets représente un des choix possibles. Selon le choix pour lequel vous allez opter, vous allez tourner le volet et suivre ensuite les indications du livre. Autre petite astuce assez amusante pour les enfants, ce sont les quatre roues articulées qui sont présentes aux quatre coins du livre et qui vont vous permettre de compléter votre inventaire. À certains moments dans le livre, on vous dira de prendre tel ou tel objet et de tourner la roue bleue par exemple pour afficher cet objet dans votre inventaire. Et à d'autres moments de la partie ou du livre, lapsus révélateur, le livre vous invitera à indiquer si vous avez oui ou non tel ou tel objet. Et si effectivement cet objet figure dans votre inventaire, évidemment, la résolution ne sera pas la même. Encore une fois, je rentrerai pas plus dans les détails. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que mon fils de 4 ans a adoré le principe. Pendant les premiers temps, il fallait lui lire l'histoire. Tous les soirs, deux fois. Alors forcément, au bout d'un moment, quand il a réussi à adopter le dragon avec les différents personnages, l'intérêt s'essouffle un peu. C'est-à-dire, ça reste une aventure qu'il a adoré faire. Je pense qu'il reviendra encore régulièrement dans le livre. Et surtout, je pense qu'il aura plaisir à retrouver ce livre quand il sera plus grand et qu'il saura lire lui-même. Enquête du Dragon va s'inscrire dans une collection, éditée toujours chez Gameflow. Un deuxième tome est d'ores et déjà prévu pour Cannes, il me semble, et s'inscrira dans un univers différent, mais toujours basé sur le même principe. Alors si à Noël vous êtes la tata qui offre toujours un jeu de société, ou si vous êtes la maman, et que le papa vous dit « Oh non mais c'est bon, tous ces jeux, ça commence à bien faire, il y en a vraiment trop à la maison. » Eh bien cette année, je vous propose de prendre le contre-pied et d'offrir un livre. Mais un livre-jeu. Ma première aventure, Enquête du Dragon, c'est donc un livre-jeu de Roméo Aignon, illustré par Arnaud Boutel, édité par Gameflow, et qui est disponible au prix unique, puisque c'est un livre, de 17,90€. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Surtout n'oubliez pas, jouez bien!
Salut à tous. Alors, pour ce Noël 2018, je vous propose un jeu de la gamme Comptes et Jeux de Purple Brain. Faut dire que j'ai un faible pour cette gamme. Son thème et ses illustrations ciblent plutôt les enfants, mais elles fonctionnent très bien entre adultes également. Il y a pas mal de jeux dans la gamme, mais j'en ai choisi un, et c'est le Joueur de Flûte, un jeu d'Agnès Largeot. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est un conte que j'aime beaucoup. La seconde, c'est que j'adore les rats et qu'il y a tout plein de rats dans le jeu. Et la dernière, c'est que c'est un jeu super accessible, facile à sortir ou à offrir à Noël. Et c'est aussi un jeu dont l'objectif est de pourrir les autres. J'avais d'ailleurs prévenu mes enfants la dernière fois que j'y ai joué en disant « Je vous préviens, le but du jeu, c'est d'embêter les autres ». Oui, parce que j'essaie d'être poli avec mes enfants, même si j'y arrive pas toujours. Donc, je ne veux pas de chouinerie et personne qui boude. Vous me direz peut-être que ce n'est pas vraiment dans l'esprit de Noël, mais je me dis que quitte à créer des tensions en famille, c'est mieux de le faire autour d'un jeu qu'autour de débats sur les gilets jaunes, le partage des tâches ménagères ou l'éducation des gamins des voisins. Là, l'idée, ça sera de remplir de rats la maison de vos adversaires et de chasser les rats de votre propre maison. Dans le Joueur de Flûte, chaque joueur dispose d'une maison à étage avec un marqueur rat, et toutes les maisons sont disposées en étoiles sur la table. Un rat est placé entre chaque maison et les cartes personnages représentant les rats ou le joueur de flûte sont disposées au centre de la table. Un second rat est placé à gauche du premier joueur pour démarrer. Chaque rat est unique et identifié par sa queue de couleur. Quatre personnages sont disposés face visible sur la table et les joueurs reçoivent quatre cartes actions. À son tour de jeu, le joueur actif va choisir deux cartes actions et les déposer sous deux personnages différents au centre de la table. Il activera les personnages qui ont été identifiés par deux cartes actions. Première carte posée, première action. Deuxième carte posée, deuxième action. Si deux personnages peuvent être activés, le joueur actif choisira dans quel ordre il les active. Les actions sont les suivantes. Avancer par-dessus une ou deux maisons. Reculer par-dessus une maison. Avancer en passant sous une maison. La carte plus 1 permet, elle, d'ajouter une action à la carte à laquelle elle est associée. Et la carte Mélodie permet d'entraîner les autres personnages placés au même endroit que le personnage. À chaque fois qu'un rat passe par-dessus une maison, le marqueur rat de la maison monte d'un étage. À chaque fois que le joueur de flûte passe par-dessus une maison, le marqueur rat descend d'un étage. Lorsque le marqueur rat arrive au niveau du toit d'une maison, le joueur est éliminé. Il faut être parmi les deux derniers joueurs en lice pour gagner, et c'est évidemment celui qui a le moins de rats dans sa maison qui gagne. Donc si on résume, l'idée c'est bien, comme je le disais au début, de pourrir tout le monde pour être le dernier en lice. Tout à fait dans l'esprit de Noël. Blague à part, c'est un jeu qui marche avec tout le monde, qui est rapide à mettre en place, qui est super fun, et évidemment il y a plein de rats dedans, donc ça me plaît bien. C'est aussi un jeu qui est super joli, les illustrations sont de Mathieu Lessen, et la boîte en forme de livre fait toujours son petit effet. Et en plus, il a un prix tout à fait raisonnable, puisqu'il est chez Philibert à 19,95€. Oui, je parle bien d'un jeu disponible chez Philibert, si ça c'est pas l'esprit de Noël. Bon, je vous souhaite une bonne recherche de cadeaux pour le 25 décembre, et d'ici là, jouez bien!
J'ai l'histoire. Il descend dans une grotte et il va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'il pouvait imaginer.
Je vais faire les décors en n'ayant pas peur de la couleur. Je vous préviens, apportez vos lunettes de soleil.
Moi, je dessine les animaux.
Je t'envoie des iguanes. C'est extraordinaire.
Ah oui, quel beau monstre. Je me suis fait un petit costume simple et sympa.
Et pourrais-tu prendre un petit accent du terroir?
Vous êtes prêts?
Oui!
Si le jeu m'était compté...
Mon Dieu, un renard a volé l'œuf d'or du poulailler. Aide les poules renifleuses à le retrouver. Ouvrez bien vos yeux et révélez les suspects. Est-ce Laurent? Est-ce Isabelle? Lance les dés, si tu as fait trois yeux, tu peux retourner un suspect.
Thomas, il a une fleur, des lunettes, une montre.
Si tu as la chance de faire que des pattes, déplace-toi.
1, 2, 3, un chapeau.
Et utilise le révélateur magique renfermant le coupable.
Si tu vois un petit point vert, c'est que le coupable porte un chapeau. Si ce n'est pas le cas, c'est que le coupable n'en porte pas. Grâce à ça, tu pourras écarter des suspects et arriver à démasquer quel est le vil renard chapardeur. C'est forcément Béatrice. Nom d'un renard, le Cluedo des tout-petits. de la mémoire, de l'observation, de la déduction. De 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans.
Ouais !
Un jeu Game Factory.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Coucou, j'ai 2 minutes pour vous parler d'un jeu bien chouette. J'ai nommé Q-Birds, pondu par Stephen Alexander, illustré par Christian de Nederlander et déniché par Ketchup Games. Premier émoi, c'est beau. Les visuels du jeu sont excellents. D'adorables petits volatiles tout en angle droit. De 8 espèces différentes, mais toutes hautes perchées sur le même fil télégraphique. Deuxième émoi, ça joue, des règles vite assimilées. Une action pour récupérer des cartes sur la table, un nombre de cartes, variable selon les espèces, qu'on doit réunir pour épingler enfin le volatile dans sa collection personnelle, 2 axes de victoire possibles, la diversification ou la spécialisation. Et puis, petit à petit... Troisième émoi, ça grince. Pas si serein. Si vous ne surveillez pas vos voisins, vous y laisserez des plumes. Piquez les cartes qui leur manquent sous le bec de vos adversaires, ou pire, videz votre main pour obliger tous les adversaires à faire de même. Ce point de règle est absolument diabolique et tout à fait essentiel. Ne le négligez pas. Quatrième émoi, ça gagne. Sur le fil, tout coiffé au poteau, prenez-en de la graine. Cinquième et vous, ça partage. Avec Q-Birds, on tient là un jeu plus malin qu'il n'y paraît, parfaitement emballé et facile à sortir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. À 13,50€ chez notre partenaire Philibert, ça c'est pas du vol. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et d'ici là, jouez bien.
Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses, je suis Paul Gara. Noël approche et c'est la fois de l'année où j'ai le droit de vous parler d'un jeu qui n'est pas un jeu pour enfants. Et oui, nous attaquons les recommandations de jeux de société pour Noël, c'est-à-dire pour jouer pendant les fêtes ou encore pour mettre dans votre liste au Père Noël. Mais voilà, je suis une personne un peu masochiste, donc j'ai décidé de demander à mes enfants de m'aider à choisir le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous parle donc de « Comment j'ai adopté un dragon », un jeu qui est publié aux éditions Le Droit de Perdre. C'est un jeu de Fabien Bleuze et Yves Herscheld qui est disponible sur le site Philibert pour un prix de 13,50€. Donc « Comment j'ai adopté un dragon », qui est un peu la V2 de « Comment j'ai adopté un gnou », est un jeu de communication-improvisation qui se joue avec des dés. Donc il est accessible à tout le monde et c'est même le jeu idéal pour jouer après les repas gargantuesques des fêtes. Lorsque vous voulez vous mettre au coin de la cheminée avec une petite couverture, un petit verre de ce que vous voulez. Et puis voilà, on lance des dés et on raconte des histoires un peu à l'ancienne, à la veillée. Donc dans « Comment j'ai adopté un dragon », on va commencer par lancer 2 dés qui nous donneront une combinaison de deux numéros. Qui nous propose 2 thèmes, 2 thèmes d'histoire à raconter. Donc on fait son choix et on a des thèmes assez variés, comme par exemple « J'ai vécu 3 mois avec un ogre » ou bien « Mon miroir enchanté n'arrête pas de mentir ouais, ». Oui, il me dit que je suis la plus belle. Ou bien « Mes lunettes, j'ai des lunettes qui me permettent de lire dans les pensées », super utile. Ou enfin « Les WC étaient fermés de l'intérieur » et là, bien sûr, interdiction de raconter l'histoire du film avec Coluche et Jean Rochefort. Donc, on choisit son thème et puis on attaque l'histoire. Pour raconter son histoire, on a des dés à notre disposition de couleurs différentes et on doit les utiliser selon la couleur croissante. Alors, c'est pas le bon terme des couleurs, c'est-à-dire en gros, la couleur la plus claire à la plus foncée. Et les autres joueurs vont, eux, avoir un dé noir à leur disposition. Donc, on commence son thème, on raconte son histoire, et puis à chaque fois qu'on est un petit peu en panne d'inspiration, on va jeter un des dés, dans l'ordre précité, qui nous permettent en fait de déterminer sur les faces des petites phrases de transition dont on va se servir pour rebondir et continuer son histoire. Le dé noir, il permet aux autres joueurs en fait eux aussi de jeter ce dé, ça leur donne une petite phrase d'accroche eux pour s'insérer dans l'histoire, en tout cas faire un commentaire et qu'il y ait un peu de répartie dans la narration. Voilà. Après, lorsqu'on a terminé son histoire, eh bien, les autres joueurs décident si elle était bien ou pas. On jette 2 dés, on marque des points, mais en réalité, les points marqués ont vraiment peu d'importance. On le fait plus comme ça que pour vraiment gagner. Le but du jeu n'est pas là. Le but du jeu est vraiment de se raconter des histoires, souvent drôles, burlesques, comiques, et qui sortent un petit peu des sentiers battus. Donc c'est un super jeu parce que vous comprenez qu'il est très très simple, on peut jouer vraiment avec n'importe qui. Ça plaira à toute la famille sans aucun doute. Pour l'avoir testé vraiment en famille comme ça, c'est des bonnes parties de rigolade et des moments mémorables. Et puis c'est un jeu franchement que vous pourrez réutiliser dans plein de circonstances, donc toutes les fêtes de famille, mais aussi les goûters d'anniversaire des enfants parce que c'est... un super outil aussi pour développer l'imagination et pour permettre à des enfants parfois timides de ne pas hésiter à s'exprimer en prenant le prétexte du jeu. Donc voilà, un très bon jeu dont je vous vraiment recommande l'acquisition. Moi, j'étais assez sceptique, c'est mon fils qui a insisté pour qu'on le prenne et puis à chaque fois qu'on y a joué, on a vraiment super bien rigolé. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en plus, c'est pas du tout mon genre de jeu de prédilection, comme vous le savez peut-être. Voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, et puis bien sûr, d'ici l'année prochaine, la fin de l'année plutôt, et les prochaines chroniques, évidemment, jouez bien!
Bonjour à tous, pour Noël, aujourd'hui je vais vous conseiller un petit jeu auquel on joue souvent en famille. Meeple Circus est un jeu d'adresse et de stratégie, un mot bien placé entre deux gros guillemets, qui vous invite à monter les plus beaux spectacles de cirque. Il se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties d'une trentaine de minutes. Le jeu a été imaginé par Cédric Millet et est sorti chez Matago. Il est aussi illustré notamment par Mathieu Lessen. Vous allez chacune être à la tête d'une compagnie de cirque. Votre but ? Impressionner le public en essayant d'accomplir au mieux les prouesses que ce dernier vous a demandées. Acrobates, animaux sauvages, jongleurs, artistes du muscle, tonneaux et autres accessoires qui vous poussent à imaginer des figures incroyables, tous les éléments sont réunis pour proposer à votre public une soirée inoubliable. L'application proposée en accompagnement du jeu vous donne accès à plusieurs morceaux musicaux tout à fait évocateurs. On sentirait presque que les embruns qui flottent dans l'air lors des soirées de vacances estivales, alors que les cirques venaient vous étourdir à coups de publicité le long de la plage. On rit, on crie, on sursaute, parfois on fait des choses étranges comme claquer des mains entre chaque figure réussie. Bref, dans Meeple Circus, on ne se prend pas au sérieux et on passe un moment drôle et habile. Pour les amateurs de jeux d'équilibre qui veulent montrer que leur sens artistique ne se résume pas à un clown posé sur 2 tonneaux, Meeple Circus est fait pour vous, entre adultes, en famille ou avec des enfants prêts à en découdre. Alors je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et surtout n'hésitez pas à jouer à Meeple Circus. A bientôt, salut!
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, mais aussi les reines et les lutins malins. Alors depuis quelques années maintenant, à chaque fois, un jeu d'ambiance fait mon bonheur. En 2016, c'était Codenames de Vladash Fatil chez Yellow. En 2017, c'était Profiler chez Cocktail Games. Et 2018, outre pas mal d'autres belles surprises comme Affinity, Illusion, Château Aventure ou encore Welcome, pour en donner quelques-unes, sera l'année donc 2018 de Décrypto. Décrypto de Thomas Dagenel-Espérance, qui a été illustré par Fabien Feucheron, Manuel Sanchez et Nils, et édité par Le Scorpion Masqué, dont je vous conseille aussi par exemple Maudite Momie, Le Monde des Fous ou encore La Chasse aux Monstres. Le jeu de l'année donc pour moi, malgré une découverte tardive. Pourtant, notre président bien-aimé, Cyrus, en a fait l'éloge très tôt, avant même sa sortie, et je croyais aux jeux durs comme fer, surtout dans mon groupe où on adore les jeux que j'ai cités précédemment. Rigolade, association d'idées, mais quand même un peu de réflexion, sûr, ça allait cartonner. Au moins à 4, peut-être qu'à plus ce serait un peu un peu moins rapide, comme Codenames. Mais je ne l'ai pas essayé avant septembre 2018. Bien des mois après son achat, bien des mois après sa sortie. Pourtant, je l'avais acheté presque à sa sortie. Avec en cause principale, ce qu'on va mettre tout de suite en exergue comme le principal défaut, le principal écueil de Décrypto, qui risque peut-être, malheureusement, de l'écarter du grand public et peut-être retarder sa pratique chez vous, auditrice ou auditeur. Alors j'ai lu plusieurs fois le livret de règles, j'ai emmené Décrypto pour plusieurs soirées, et on ne l'a sorti qu'après l'avoir repoussé à de multiples reprises. Parce que si le jeu est simple dans sa pratique, un tour de jeu est en fait, c'est dans la boîte pour tout le monde a compris ce dont il s'agissait, tout le monde est capable de jouer tous les rôles, ben Décrypto fait partie des jeux dont la lecture des règles donne mal la visibilité de cette pratique, et on sent qu'il va être un peu casse-pied à expliquer pour une première partie. Alors ça se confirme, on présente les règles, on présente le déroulement, et soi-même on n'est pas bien sûr que ça enjaille nos partenaires, qui semblent un peu dubitatifs, nous regardons, on va essayer, mais ils y croient pas trop. Mais on se montre convaincant sur la fluidité de l'ensemble, parce que encore une fois, Cyrus nous a rebattu les oreilles, et puis finalement, on croit dans le scorpion masqué. Mais une fois la première partie faite, même le premier tour, la première round de cette première partie, tout va bien, on sait alors que Décrypto est excellent. Et du coup, dans les parties suivantes, même avec de nouveaux joueurs, on parvient à convaincre nos camarades plus facilement que tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Je sais, ça paraît pas clair, ça paraît pas terrible, mais faites-moi confiance. Et cette fois, on y croit parce qu'on a vécu cette première partie. Néanmoins, pour le large public auquel le jeu peut se destiner par son accessibilité, par sa simplicité, c'est quand même triste que ce soit un tel frein. Les gens qui vont peut-être l'acheter pour se rendre compte qu'ils vont jamais le sortir ou qu'ils vont le revendre en brocante pour Dany parce que voilà, ils ont pas bien compris les règles ou parce qu'ils ont l'impression que ça va être trop complexe, ce qui n'est vraiment pas le cas. Alors du coup, pour éviter cette déconvenue, je vous conseille de le découvrir auprès de quelqu'un qui le connaît déjà, ou bien dans une soirée jeu, que ce soit une assoce, une boutique, un bar à jeu, je ne sais quoi, pour éviter de l'acheter et de le laisser au placard ou de le revendre par la suite, ce serait vraiment dommage. Bref, passer ce menu défaut qui écartera peut-être, encore une fois, une partie du public, Décrypto fait partie, comme Codenames, de ces jeux par équipe, donc deux équipes, où il faut quand même un petit peu réfléchir, intercepter les idées de l'autre équipe, éviter d'être trop transparent avec notre propre équipe, mais quand même suffisamment pour éviter les malentendus. Le tout dans un équilibre toujours très tendu et qui provoque de bonnes crises de fou rire quand il faut expliquer à nos partenaires pourquoi l'expression « ma vie en ce moment » était censée faire deviner le mot, par exemple, « impuissance ». Alors je vous refais pas les règles, il me semble que Cyrus a fait un épisode des jeux du mois dessus, et puis ce petit épisode n'est pas là pour ça, mais tout ça tourne autour du vocabulaire. L'encrypteur, il doit utiliser des mots ou des expressions pour en faire deviner d'autres dans un certain ordre. Il faut noter, quand même, la phase où on essaie de décoder les propositions des adversaires pour intercepter leur code à l'aide d'associations faites entre les indices des différentes manches. Et les outils qui sont proposés par le matériel de Décrypto permettent justement de mettre en place ce réseau d'idées de manière assez efficace. Donc, chapeau pour le matériel qui fonctionne très bien quoi dans son utilisation. Alors les stratégies qui sont développées pour tromper l'ennemi ou se faire comprendre de ses partenaires sont assez multiples aussi, ce qui provoque l'envie de rejouer et une bonne rejouabilité dans le concept qui est quand même simple, on arrive quand même à le détourner, à réinvestir les idées de base dans de nouvelles situations avec de nouveaux réseaux d'idées, avec une nouvelle utilisation du matériel, etc. Donc on découvre régulièrement des nouvelles stratégies qui sont en fait parfois mises à mal quand on rencontre un nouveau schéma de pensée par la rencontre aussi d'un nouveau partenaire. Comme Codenames aussi, la configuration à 4 est bien sûr la plus rapide, la plus fluide, et puis c'est celle que je préfère. Mais le jeu fonctionne mine de rien à plus nombreux, que ce soit en nombre pair ou impair. Alors ça rallonge juste un peu le temps de partie, ça peut provoquer quelques désaccords ou quoi, mais voilà, quelques incompréhensions aussi, mais ça fonctionne. Alors voilà, je rajoute pas grand chose de plus. Pour moi, c'est un must-have si vous aimez le genre. Peut-être un poil difficile d'accès au premier abord, mais néanmoins accessible dans la pratique. Porteur à la fois de triturage de neurones, de rire partagé, et puis avec un matériel qui sert le jeu, encore une fois, sans paraître exagéré, à un prix raisonnable. Donc c'est un bon moyen de montrer ce que peut être un jeu de communication en 2018 à vos amis. Et c'est surtout le jeu auquel j'ai le plus joué cette année, qui vient se placer du coup à côté de grands classiques du genre, que j'ai pratiqué des dizaines et des dizaines de parties. Donc bravo aux auteurs des Décrypto, bravo aux Scorpions Masqués pour la trouvaille et pour le travail d'édition, et puis je vous souhaite de bonnes fêtes que j'espère ludiques, pour éviter le tonton raciste et puis la tata homophobe. Jouez bien!
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Je suis Hammer, mais cette fois-ci, je ne vous emmène pas en Allemagne, mais bien plus loin, sur la planète Solenia. Solenia, c'est un bien curieux astre dont une des faces est toujours illuminée pendant que l'autre côté reste plongé dans une nuit éternelle. Le résultat, c'est que certaines des ressources de la planète sont bien plus abondantes du côté jour que du côté nuit, et vice-versa. Alors, un grand aéronef fait en permanence le tour de Solenia avec des marchands à son bord, qui vont récolter sur les nombreuses îles flottantes les ressources dont les habitants de chaque moitié de planète ont besoin. Jolie toile de fond, non ? Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, Solenia, c'est d'abord un jeu de Sébastien Dujardin, tout récemment paru chez Pearl Games et joliment illustré par Vincent Dutré. Sur la table, la planète Solenia est représentée par un plateau à la forme inhabituelle et composé de 5 parties qui s'emboîtent les unes dans les autres. Les cases du plateau comportent soit une île produisant une des 4 ressources du jeu, le blé, le bois, l'eau ou la pierre, soit une ville à ravitailler. C'est là que vous pourrez vendre les ressources récoltées pour gagner des points de victoire. De plus, chacune des parties du plateau est imprimée recto verso, l'un des côtés représentant le jour et l'autre la nuit. Au début de la partie, une moitié du plateau est ainsi plongée dans l'obscurité, l'autre moitié étant éclairée. Et c'est au milieu du plateau que vous placerez l'aéronef dont je vous parlais en introduction, sous forme d'une jolie figurine perchée au-dessus de son socle transparent. Vous possédez un paquet de 16 cartes à votre couleur et un plateau représentant votre vaisseau, qui comporte 8 emplacements pour y stocker les fameuses ressources. Au début de votre tour, vous avez 3 cartes en main, piochées depuis le dessus de votre paquet personnel. Vous devez en choisir une et la poser à proximité immédiate du vaisseau central ou bien à côté d'une des cartes que vous avez déjà posées lors d'un tour précédent. Si vous posez votre carte sur une case comportant une ressource, vous gagnez autant de cette ressource que le chiffre indiqué en haut de votre carte, à savoir 0, 1 ou 2, et vous stockez ces ressources dans votre vaisseau. Petit détail, vos cartes sont trouées en leur centre, figurant le hublot de votre vaisseau par lequel vous apercevez les îles sur lesquelles vous allez vous poser. Ainsi, lorsque votre carte est posée sur le plateau, on continue de voir la ressource en question. Une belle astuce éditoriale. Si au contraire vous posez votre carte sur une ville de jour ou une ville de nuit, vous devrez remplir un des contrats, de jour ou de nuit eux aussi, présents sur la table et vous défausser des ressources correspondantes pour gagner les points indiqués. La tuile de contrat rejoint alors un des emplacements de votre plateau personnel et vous gagnez un petit bonus pour cela, en général une ressource gratuite. Si vous avez bien suivi, je vous ai dit que les cartes pouvaient avoir une valeur de 0. Mais à quoi ça peut bien servir de récolter 0 ressources ? Eh bien, ces cartes-là sont très importantes, car ce sont elles qui vont vous permettre de faire avancer l'aéronef autour de la planète. La figurine avance d'une case sur le plateau, et la dernière partie du plateau à l'arrière est, pour ainsi dire, éjectée, pour revenir à l'avant du plateau après avoir été retournée. Vous comprenez donc qu'à la faveur de ces fameuses cartes zéro, le paysage de Solenia va défiler pendant la partie, passant du jour à la nuit et ainsi de suite. Vous l'aurez compris, Solenia c'est un jeu de gestion de ressources, mais si vous n'avez pas l'habitude de ce style de jeu, que cela ne vous intimide pas. À votre tour, tout ce que vous avez à faire c'est poser une carte sur le plateau. Et puis la durée des parties reste contenue, car quand tous les joueurs ont posé leur dernière carte, c'est fini. 16 petits tours de jeu et puis c'est tout, il ne reste plus qu'à compter les points. Et comme le jeu a en plus de cela une jolie présence sur la table, je trouve qu'il s'agit là d'un bon choix pour s'initier en douceur à ce genre de mécanique. Collecter des ressources, les revendre pour remplir des objectifs, vous me direz qu'on a déjà vu ça bien des fois. Oui, sans nul doute. Mais voilà, il y a ce petit twist, cette originalité du plateau changeant, de la nuit et du jour qui alternent et défilent pendant la partie, et qui ajoute au jeu un élément important, le timing. Comme vous n'avez pas une place infinie dans votre vaisseau pour stocker ces fameuses ressources, il faudra savoir profiter des îles présentes sur le plateau au bon moment pour pouvoir remplir les contrats les plus juteux en points de victoire, quitte à précipiter un peu l'arrivée du jour ou de la nuit, en n'hésitant pas à faire avancer le vaisseau grâce à vos cartes. Bien que vos actions soient simples, le jeu ne manque pas de profondeur et il faudra bien observer le plateau pour voir quelles sont les ressources disponibles, la possibilité existant d'un peu embêter vos adversaires en choisissant judicieusement où vous posez vos cartes. Tout comme celle de voir le contrat que vous convoitiez vous filer sous le nez. En résumé, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé Solenia, aussi bien à 2 qu'à 4 joueurs. La boîte annonce que le jeu est praticable à partir de 10 ans, c'est sans doute assez exact, même si, évidemment, vos enfants joueurs déjà habitués pourront sans problème s'y aventurer, même s'ils sont un peu plus jeunes. Si tout cela vous a donné envie d'ajouter Solenia à votre liste au Père Noël, ou de le glisser dans les souliers d'une personne que vous aimez au soir du 24 décembre, je vous rappelle qu'il s'agit là d'un jeu de Sébastien Dujardin, paru chez Pearl Games en 2018 pour 1 à 4 joueurs et que vous pourrez trouver chez notre partenaire Philibert au prix de 31,90€. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et en attendant de vous retrouver, je vous dis comme d'habitude, spielt gut et jouez bien! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Coucou les petits lutins! Oui, si vous écoutez cette chronique, c'est que vous avez sûrement eu les commandes au Père Noël et que vous devez retenir le meilleur jeu à mettre sous le sapin cette année. Blague à part, Clank n'est peut-être pas le meilleur pour vous, mais c'est le choix que j'ai fait pour ce Noël. Clank, un jeu des éditions Renegade, pour 2 à 4 aventuriers conseillés à partir de 14 ans sur la boîte. Dans Clank, on incarne des aventuriers intrépides qui veulent voler un maximum de trésors à la dragonne pour pouvoir raconter leurs exploits aux villageois. Mais attention, Nikki la dragonne, c'est son petit nom, ne se laisse pas faire aussi facilement. Comme tous les dragons, elle garde bien au chaud ses trésors les plus précieux. Vous allez devoir vous aventurer dans les profondeurs pour tenter de les débusquer. Au cours de votre chemin vers les profondeurs, vous allez pouvoir recruter des alliés, chiner des objets et combattre des créatures pour gagner en force et en dextérité. Attention, Nikki, elle est comme moi, elle est sensible au moindre bruit, à la moindre petite musique. Un seul faux pas et clank, elle vous reparlera. Soyez très discret si vous espérez sortir vivant de votre quête. Clank est un jeu dit de deck building. Vous allez construire votre paquet de cartes qui vous permettra d'avancer sur le plateau. Chaque joueur possède son propre paquet, appelé deck, dont la constitution aura une part importante dans votre stratégie. Tous les joueurs commencent la partie avec les 10 mêmes cartes dans leur deck. Vous commencez votre tour de jeu en piochant 5 cartes. Vous devez toutes les jouer dans l'ordre de votre choix, même si vous n'utilisez pas toutes les ressources que les cartes vous proposent. Les ressources sont soit des points de compétence, en bleu vous permettant d'acheter de nouvelles cartes sur la piste des aventures et de les ajouter à votre deck, soit des épées, en rouge pour combattre les monstres présents, soit des bottes, en jaune, pour pouvoir vous déplacer sur le plateau de jeu. Les cartes proposées dans la boîte de base sont différentes et très variées. Elles vous permettent ainsi de choisir plusieurs stratégies possibles pour tenter de l'emporter. C'est ce qui fait la richesse de ce jeu selon moi. Beaucoup de stratégies différentes, pas une meilleure que l'autre pour s'en sortir. Il faut certes compter sur sa chance en termes de pioche, mais aussi choisir les bonnes cartes au bon moment pour espérer faire les meilleurs combos possibles. Oui, mais Clank, ce n'est pas que un deck building, c'est aussi, en même temps, un jeu de plateau roguelike, un peu comme le jeu vidéo Slay the Spire que je vous présente régulièrement sur la chaîne Twitch de Proxy Jeux. On choisit un chemin, on s'arrête sur une case, on fait l'action présente et on joue nos cartes. Dès que la dragonne apparaît sur une carte de la piste des aventures, tous les bruits que nous avons faits depuis le début, représentés par des petits cubes de bois de notre couleur, rejoignent le sac noir. Et là, vous priez pour que votre couleur ne sorte pas de ce sac, au risque de vous infliger un point de dégâts par cube. Nous possédons 30 cubes au début du jeu, mais notre piste de dégâts ne comporte que 10 cases. Je vous laisse faire le calcul. Le grid n'est pas de mise pour ce jeu, enfin, sauf si vous comptez sur votre chance. Ce n'est pas mon cas personnellement. Qu'est-ce qui se passe quand le compteur de dégâts atteint 10 ? C'est la mort. Oui, mais si vous mourez au-dessus de la pelouse, les villageois vous rattrapent et vous ramènent chez eux avec les trésors que vous avez pu récupérer jusque-là. Si vous mourez dans les profondeurs, personne ne pourra plus rien pour vous. Vous serez oublié à tout jamais, mais vous aurez au moins eu le mérite d'essayer. Clank est mon petit coup de cœur de cette année. Bon, faut dire que j'adore les deck building, j'adore les aventures, j'aime beaucoup les dragons. Au-delà de ça, c'est un jeu simple mais pas simpliste, accessible selon moi dès 10 ans. Fait pour être joué en famille, entre amis ou même en couple. Sa force est d'être aussi plaisant à 2, 3 ou 4 joueurs. La difficulté s'adapte en fonction du nombre de joueurs. Comptez environ 45 minutes, 1 heure pour la durée de votre partie et une bonne demi-heure de lecture de règles mises en place pour votre première. La mécanique est fluide, les règles sont compréhensibles, plutôt bien écrites, le matériel est correct, joli, même si je vous conseille de rapidement protéger vos cartes pour ne pas qu'elles s'abîment car elles sont très souvent manipulées. Clank a déjà de nombreuses extensions à son actif. Trésors engloutis, La malédiction de la momie, et le dernier en date, un standalone, Clank dans l'espace. Toutes sont trouvables chez notre partenaire Philibert. Sur ce, et parce que vous avez l'habitude d'entendre quelques notes de musique dans ma chronique habituelle, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jouez bien! Thank you.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings.
Salut à tous, c'est Malk et pour la sélection de Noël, je vous ai choisi un jeu de rôle, histoire de changer un peu des soirées jeux de société en famille. Oh, je crois que j'ai fâché les autres là. Bon, j'ai réussi à me planquer mais je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire vite. Je vous conseille le jeu Monster of the Week, j'en donne plus de détails dans ma chronique de l'épisode 99. Et pour faire simple, si vous aimez le jeu de rôle et qu'au moins une de ces musiques vous parle, vous allez trouver votre bonheur avec Monster of the Week. Les musiques, vite, 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 ah oui voilà, c'est bon. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Surtout, jouez bien. Hey, non, non, non. Oh !
Lancer enregistrement. Démarrer chronique. Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Et comme mes autres comparses de chez Proxy Jeux, je vais vous conseiller un jeu pour Noël. Plutôt que de suivre la course effrénée vers la nouveauté, j'ai préféré vous parler d'un jeu qui a environ un an et que j'ai pu un peu plus expérimenter afin de vous conseiller une valeur sûre, et j'ai donc décidé de vous parler de Château Aventure. Il s'agit là d'un jeu qui fait partie de la mouvance des jeux narratifs. Je ne vais pas me répéter puisque j'en parlais déjà l'année dernière dans une chronique qui leur était dédiée. Château Aventure est un jeu qui s'inspire des jeux vidéo narratifs textuels datant des débuts des jeux vidéo. Un peu à la manière d'un jeu de rôle, et là je vous parle des jeux de rôle sur table, une personne incarnera la machine qui est une sorte de maître de jeu, et les autres joueurs devront dire à voix haute des commandes qu'ils rentrent dans cette machine. À la manière des jeux vidéo textuels donc, les commandes sont toujours composées d'un verbe à l'infinitif, éventuellement suivi d'un complément d'objet, par exemple ouvrir porte, prendre bâton ou utiliser potion magique. La vraie force de Château Aventure, c'est de proposer une expérience proche du feeling des vieux jeux vidéo, parfois rappelant aussi les logiques des point and click un peu humoristiques, avec un peu plus de liberté puisque c'est une personne bien réelle qui contrôle le scénario, permettant parfois plus de tolérance par rapport aux commandes entrées par les joueurs, ou bien laissant parfois échapper des indices pour éviter que l'on ne pédale trop dans la semoule sur une seule énigme. Concrètement, c'est une expérience très proche du jeu de rôle, mais en beaucoup plus rapide puisque les parties durent environ 30 à 45 minutes, et avec également un gain de temps considérable pour le maître de jeu, qui aura besoin de beaucoup moins de préparation que dans un vrai jeu de rôle puisque le jeu est très scripté. Toujours à l'image des jeux de rôle, Château Aventure possède l'avantage de la modularité. Pas mal de règles sont optionnelles, et puis de toute façon, vous jouez bien comme vous l'entendez, et comme cela vous fait le plus plaisir. De même, les 12 scénarios proposés sont tous très différents. Château Aventure n'est en fait que le nom du premier scénario, mais les 11 autres proposent à peu près tous des univers complètement différents, mais aussi des structures différentes en termes de game design et de narration. C'est d'ailleurs à chaque fois des auteurs et des illustrateurs différents qui ont réalisé chaque scénario. Alors pourquoi je le conseille pour Noël ? Eh bien parce que le jeu peut convenir à énormément de types de joueurs, vous pouvez y jouer avec des débutants comme des plus confirmés, à vous d'affiner les règles pour obtenir la meilleure expérience ludique qui soit. L'autre point fort du jeu, c'est qu'il ne nécessite pas vraiment de matériel, tout au plus une feuille et un stylo si vous autorisez vos joueurs à prendre des notes ou à dessiner une carte. C'est donc jouable en toutes circonstances, en voiture, dans un canapé ou au milieu d'un repas de fête, où vous n'avez pas envie de poser votre beau matériel de jeu tout neuf sur une table chargée et susceptible de générer de dangereuses projections de nourriture ou de boissons sur vos belles cartes et votre beau plateau. Bref, un jeu accessible avec un principe original qui vous offre en gros les sensations d'un jeu de rôle light et qui coûte seulement 25€ chez Philibert, c'est une grosse recommandation pour moi. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et d'ici là, jouez bien!
Bonjour les joueurs, je suis Fenoël, et pour cette sélection de Noël, je vous présente le jeu Détective, édité chez Yellow. Détective est un jeu d'Ignacy Trevicek. C'est un jeu qui, de l'aveu de l'auteur, ressemble énormément à Sherlock Holmes Détective Conseil, que vous connaissez peut-être déjà. Eh bien en fait, c'est exactement la même idée que Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est-à-dire le fait que les joueurs incarnent des enquêteurs qui vont résoudre une enquête durant une soirée, mais transposé à l'époque moderne. Alors en fait, Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est à l'époque de Sherlock Holmes, donc, et Détective, c'est à l'époque actuelle. On jouera des agents de la CIA, en fait, des consultants de la CIA, qui sont chargés d'enquêter sur différents cas. Alors dans la boîte de base, il y a 5 cas qui existent, et qu'on va devoir essayer de résoudre les uns après les autres, au fur et à mesure de plusieurs journées de travail. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Déjà, le jeu est composé de cartes. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez un petit plateau de jeu, tout petit plateau de jeu qui va permettre de gérer les déplacements et également l'écoulement du temps durant la journée. On a également 5 paquets de cartes en fait qui correspondent aux 5 affaires qui sont présentes dans la boîte de base. Tout simplement pour commencer une nouvelle enquête, on va prendre le premier paquet, on va ouvrir le livret d'enquête, le livret de règles. Le livret d'enquête va nous livrer le début, le démarrage du scénario. Pour le premier scénario, je vais le dire rapidement, donc c'est une histoire qui va parler d'anciens nazis de la Seconde Guerre mondiale qui auraient volé un trésor à la Pologne pour s'échapper, qui se serait échappé, et ce trésor arrive à l'époque actuelle, donc il s'agit d'une montre en or. Donc le premier scénario s'appelle l'homme à la montre en or. Donc c'est l'enquête sur laquelle on va partir. On a différentes pistes qui sont notifiées, donc voilà, je peux me rendre à la réserve pour inspecter les preuves, et donc on a un numéro 103, quartier général. En fait, ce numéro 103, c'est le numéro d'une carte parmi le paquet de cartes de l'affaire numéro 1. Donc en fait, je vais pouvoir aller rechercher la carte, et sur la carte, je vais avoir les différentes informations de cette piste. Donc voilà, je vais pouvoir lire un petit texte d'ambiance et puis dire un petit peu ce que je vais pouvoir trouver. Et en bas de la carte, je vais pouvoir avoir des choses que je vais gagner. Alors on va expliquer un petit peu ce que c'est, mais en gros, on va pouvoir gagner différents jetons et également la possibilité d'approfondir la piste. Comment est-ce qu'on approfondit une piste? C'est extrêmement simple, on va dépenser un jeton et on va pouvoir retourner la carte pour aller plus loin dans la piste si on juge la piste intéressante. Alors d'où viennent ces jetons? Je parle de plusieurs types de jetons. En fait, chacun des participants à l'enquête ramène en commun un certain nombre de jetons en fonction des participants. C'est-à-dire qu'on va choisir un enquêteur au début de l'enquête qui va avoir des caractéristiques. Celui-là, il est très bon pour les interrogatoires, donc il va ramener des jetons qui améliore, qui facilite les interrogatoires, etc., etc. Celui-là est très bon pour rechercher des documents et donc il va pouvoir rechercher des documents plus facilement ou plus rapidement ou que sais-je. Voilà. Alors la piste que vous allez suivre va également vous consommer du temps. Le temps, c'est pas très compliqué. Chaque journée commence à 8h et termine à 16h et donc on va pouvoir avancer un jeton sur le plateau et en sachant qu'on pourra faire éventuellement prolonger sa journée de travail en heures supplémentaires, mais ce qui rajoutera des jetons de stress. Alors les jetons de stress sont comptés en points négatifs à la fin. Également, le fait d'avoir trop de jetons de stress peut mettre fin directement à l'enquête parce que vos enquêteurs en fait sont épuisés, hein, tout simplement. Voilà, et en fait, peut-être que la piste que je vais voir va m'amener à une autre piste, etc. Ou alors je vais partir dans d'autres directions, ou alors je peux avoir des intuitions et aller voir certaines personnes intéressantes. Alors, également, le côté moderne vient surtout... Alors là, vous allez me dire effectivement que ça ressemble à un Sherlock Holmes Détective Conseil normal, mais le côté moderne vient surtout du côté ordinateur. Alors pourquoi? Parce qu'il existe tout simplement un site web sur lequel vous allez vous connecter. Alors il faut se créer un compte, hein, et dans lequel vous allez pouvoir renseigner ou faire des recherches. Alors, renseigner les choses, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si on trouve des traces, des empreintes... Alors, ce qu'ils appellent des traces, en fait, c'est des empreintes digitales, des traces de sang, des substances, etc. Tout ça va être consigné sous forme de traces dans le logiciel. Donc, dès qu'on en trouve une, on l'ajoute dedans et on pourra avoir des correspondances. On pourra avoir des correspondances entre les empreintes digitales, on pourra avoir des correspondances génétiques entre les traces de sang, etc., etc. Et également, on va avoir accès à tout un tas de dossiers, d'anciens dossiers, de cas sur certaines personnes qui nous intéressent et qu'on pourra inspecter. Alors, le jeu de ce côté-là est beaucoup plus moderne et il est parfaitement possible de jouer éventuellement avec plusieurs ordinateurs ou plusieurs tablettes ou plusieurs téléphones. Et chacun consulte les dossiers ou lit les dossiers qu'il souhaite dans l'ordre qu'il veut. Ça pose absolument aucun problème. Le truc, c'est que l'ensemble des pistes est contenu sur les cartes. De ce côté-là, les cartes, en fait, s'apparentent pas mal au livret de Sherlock Holmes Détective Conseil. Ensuite, on a une notion donc de temps, ce que j'ai dit. En fait, l'enquête, elle va durer un certain temps. Et à la fin, on pourra la résoudre de façon très simple. On ira sur l'ordinateur et puis on pourra dire « je vais résoudre l'enquête ». Et on répondra à une série de questions. Alors, un petit mot sur la ressemblance avec Chronicle of a Crime. Donc on m'a posé la question s'il y avait des ressemblances et éventuellement lequel je préférais. Donc je pense que je préfère Détective, qui se rapproche plus de Sherlock Holmes Détective Conseil, que j'aimais beaucoup. Et vraiment, là, on a une version améliorée, survitaminée, et j'aime beaucoup le côté que prennent les enquêtes, et surtout l'aspect qu'explorent les enquêtes avec des anciens nazis. Et quand Chronicle of a Crime, ça ressemble plus à une boîte à outils. Dans la boîte de Chronicle of a Crime, vous avez juste des petites cartes représentant des personnages avec des QR codes. Dans Chronicle of a Crime, finalement, c'est une personne qui aura un téléphone et qui va pouvoir scanner un petit peu tout ce qu'il veut, sans aucun problème. Les pistes, les mauvaises pistes vont faire des points négatifs, les bonnes pistes vont faire des points positifs, même si à la fin, il y a un petit peu la même chose que pour Détective. On répond à une sélection de questions, voilà. Pourquoi j'aime Détective? Donc tout simplement, c'est le même principe que Sherlock Holmes Détective Conseil. Et de ce côté-là, je retourne dans des petits chaussons bien chauds que j'ai adorés. On retrouve un côté modernisé pour plusieurs raisons. Alors Eden, il y a une notion de temps qui apporte un petit peu de stratégie dans le jeu. On a également un côté un petit peu legacy. Alors faudrait que j'explique un petit peu ça. Mais il est possible, par exemple dans l'enquête 1, de trouver différentes pistes qui sont liées à l'enquête numéro 2. Et donc on rajoutera des cartes qu'on a trouvées dans l'enquête numéro 1, dans l'enquête numéro 2. Chaque enquête a un début, un milieu, une fin, mais est aussi liée aux enquêtes d'après. C'est pour ça qu'il est recommandé d'y jouer de façon assez continue. Par exemple, vous faites une enquête par semaine, ça peut tout à fait convenir. C'est aussi un jeu moderne. Alors l'intérêt, c'est que comme on n'a pas de livret, on a juste des cartes, c'est plus facile finalement de se le passer de l'un à l'autre. Et ça, je trouve ça pas mal. Et même, moi j'y ai joué avec deux ordinateurs. On avait dit différentes façons de travailler et on pouvait tout à fait consulter les dossiers dans l'ordre qu'on le souhaitait sans entraver l'autre, sans prendre le cahier de règles à l'autre, sans quoi que ce soit. Donc ça, c'est aussi très confortable. Donc voilà, le jeu dépoussière complètement Sherlock Holmes Détective Conseil. Je recommande vraiment à tous les amateurs de Sherlock Holmes Détective Conseil. Si vous n'avez pas aimé Sherlock Holmes Détective Conseil, peut-être que vous aimerez Détective. Alors pourquoi? Parce qu'il est un petit peu moins... alors je vais être méchant là, peut-être un petit peu moins pompeux, un petit peu moins, vous voyez, un petit peu moins dans cette Grande-Bretagne ancienne. On est là dans un côté Amérique moderne, même si le côté américain n'est pas particulièrement marqué. Mais on se retrouve vraiment dans une affaire d'enquête, comme une série télévisée moderne. Et j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Voilà, je vous le recommande pour ma sélection de Noël. À bientôt.
Salut, c'est Dédé Schutz. Ma sélection pour ce Noël 2018, c'est Nyctophobia. Mettons-nous un peu dans l'ambiance de ce jeu. La nuit est noire dans la forêt sans lune. Il est juste derrière vous. Il se rapproche. Il a déjà découpé Cyrus avec sa hache. Mais où est garée cette satanée voiture ? Voilà un peu l'ambiance que l'on retrouve dans Nyctophobia. Nyctophobia qui signifie la peur du noir, parce que dans ce jeu, vous ne verrez pas le plateau. Tous les joueurs ont des lunettes noires, des lunettes opaques, et ne verront donc pas le plateau de jeu. Pour se déplacer, il faudra donc garder son doigt sur son pion tout le long de la partie, et à son tour, avancer à tâtons dans la nuit sur le plateau. Un seul joueur, le maître du jeu, voit le plateau et est garant de mettre un peu l'ambiance autour de la table. Lui joue le tueur psychopathe qui va tenter de tuer les joueurs. Les joueurs, leur but, c'est de retrouver une voiture sur ce plateau. Ils devront alors se coordonner autant que possible pour ratisser le plateau labyrinthique et ainsi trouver cette voiture. Pour la petite histoire, l'auteur, oui, parce que c'est une femme, Catherine Stipel, a créé ce jeu pour jouer avec son oncle qui est aveugle. Donc si notre interview de Axis Jeux vous a donné envie, ou que vous voulez simplement une expérience inédite de jeu, je vous conseille Nyctophobia. Il se joue de 3 à 5 joueurs, à partir de 9 ans, pour des durées de 30 à 45 minutes. Et il est disponible chez notre partenaire Philibert à environ 36 euros. Et pour faire concurrence à l'INRIA, je vais aussi finir en musique. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Approche à grands pas, je ne sais pas quoi acheter. Marre des cadeaux classiques qu'on vendra sur eBay.
Donc cette année, pas de CD, ni de robots ménagers. Encore moins de grands parfums ou de livres sous le sapin.
Je suis pas bizarre, c'est ou même limite stressé. Pourtant, le temps me prête. Mais où vais-je trouver tant d'idées? Hé, c'est pourtant ça, des cadeaux sympas.
Rayon vélo pour ton papa. Y'en a des super comme celui fixé.
Et c'est pourtant